suspends la question de la différence entre le récit de ce qui s'est passé à Purim et le récit de la sortie d'Égypte. Alors, je pense que la différence, elle vient de ce que la forme du récit de Purim, c'est-à-dire quelque chose qui est complètement carré, c'est-à-dire où il y a les faits, en quelque sorte, qui sont consignés, et on lit ça comme voilà, une information. Mais il n'y a pas de mitzvah de raconter. Pourquoi? Parce que on considère Purim comme un événement. C'est quelque chose qui a eu lieu à un moment bien précis. Par contre, la sortie d'Égypte, comme c'est un récit qui est complètement ouvert, il s'agit d'enrichir chaque année, qu'on a une mitzvah de se souvenir de la sortie d'Égypte tous les jours. En fait, ça correspond à quelque chose qui n'est pas un événement. Yetziat Mitzrayim, c'est pas un événement, c'est un processus. Alors, on peut le voir, on en a déjà un peu parlé, on peut voir la sortie d'Égypte comme un moment dans le processus de la naissance du clan Israël. C'est-à-dire, on peut considérer que c'est un processus qui a commencé par, on pourrait dire, par la conception qui est en fait, c'est Yosef, la cellule initiale, et puis ensuite l'embryon, le fœtus va se mettre en place, et ça a lieu durant cette grossesse, et l'exil, l'esclavage, c'est la grossesse. Les makot, c'est les douleurs de l'accouchement, enfin, c'est les, comment on appelle, comment, les tsirim, comment? Hevleleida en français. Comment ça s'appelle? Les contractions, ouais, voilà. Contractions. Et l'expulsion de, ben, c'est justement la sortie d'Égypte elle-même. Et en fait, ça continue un peu, puisqu'en vérité, le développement de ce processus continue, puisque le septième jour, il a fallu franchir la mer, donc il a fallu la déchirure de la mer, qui a permis aux Bnei Israël de passer et aux Égyptiens de se noyer. Et ça culmine, si vous voulez, avec la Shira, ça culmine avec le cantique, le chant que les Bnei Israël ont chanté avec Moshe Rabbeinu et Myriam avec les femmes, etc. Donc ça, c'est une façon de voir le processus. Mais en réalité, on peut voir le processus d'une façon encore plus large. Dans le Kiddush de Rosh Hashanah, comme vous savez bien, on mentionne que Rosh Hashanah, c'est l'anniversaire de la création de l'homme ou de la création du monde, si on veut. Mais dans ce même Kiddush, qui est le Kiddush de Rosh Hashanah, on dit Zecher le-Yetziat Mitzrayim. C'est quoi Zecher le-Yetziat Mitzrayim au moment du Kiddush de Rosh Hashanah? Comment est-ce que à Rosh Hashanah on mentionne Zecher le-Yetziat Mitzrayim? Alors on peut bien sûr dire que la raison pour laquelle on mentionne Zecher le-Yetziat Mitzrayim, c'est parce que à ce niveau-là, il n'y a pas de différence entre le passé et le présent, etc. Donc on peut, au moment quand on parle du passé, c'est de la construction la fabrication du monde, à ce moment-là, on peut aussi parler de la sortie d'Égypte, parce qu'on peut penser, on parle de quelque chose qui ne s'inscrit pas dans notre temps en quelque sorte, mais dans un temps où il n'y a pas de différence entre le passé, le présent et le futur. Mais on peut aussi penser que quand on disait Chayetz Mitzrayim au moment de la ou au moment de Rosh Hashanah, au moment où on pense, où on commémore d'une certaine manière, Hayom Harat Olam, le jour où le monde, le monde est créé, le monde qui est vu par l'homme est créé, que ce processus-là, Yetziat Mitzrayim, on va l'appeler Mitzrayim parce qu'il va se condenser, il va se dire de façon très claire au moment de la sortie d'Égypte, mais ce processus-là, il commence dès le début de dès la création du monde. Parce que le monde a été créé par Hachem pour que les hommes reconnaissent Hachem comme le roi. Et donc, et la sortie d'Égypte, c'est un moment dans lequel on est appelé à reconnaître Hachem comme le roi. Mais ça a déjà commencé avec la création d'Adam Harishon. C'était déjà le travail d'Adam Harishon. Donc ce sujet-là, il a commencé tout de suite. Alors, on lui donne le nom Yetziat Mitzrayim, mais c'est un processus qui en fait, accompagne, ou à l'intérieur duquel, on pourrait presque dire, le monde, toute l'histoire du monde se joue, se déroule même. Ça, c'est Yetziat Mitzrayim comme un processus. Un processus plus restreint si on s'en tient seulement à la sortie d'Égypte elle-même, processus de la naissance, de la conception à la naissance, et peut-être même un plus que la, c'est la conception à la naissance de quelque chose qui peut devenir un peuple. Et comme vous savez, n'est pas encore un peuple puisque ça ne deviendra un peuple qu'au pied du Sinaï, et que même après Kriyat Yamsouf, on n'est pas encore un peuple, mais on a déjà, si vous voulez, une structure qui va permettre de devenir un peuple. Cette structure, elle a été fabriquée, comme on l'avait expliqué d'après le Gaon, c'est fabriqué parce que Hachem a ordonné au Bnei Israël de prêter, d'emprunter, etc., donc de fabriquer des liens entre des gens qui jusque-là, parce qu'ils étaient esclaves et parce qu'ils en étaient à rechercher leur souffle, ne pensaient qu'à eux. Donc il n'y avait pas de relation entre les gens. Et s'il n'y a pas de relation entre les gens, il n'y a pas d'embryon possible de peuple. Donc il fallait quand même qu'il y ait un petit peu de ciment, un peu de relation entre les gens. Et ça a été fait en Égypte. C'est ce qui a permis ensuite de sortir le clan Israël, parce qu'autrement, il n'y avait pas de clan Israël. Bon, sinon, on avait un amas d'individus. Alors, c'est maintenant c'est un agrégat, disons, d'individus, pas un amas, mais un agrégat. Et c'est suffisant pour que on puisse devenir, au pied du Sinaï, un peuple. Le clan Israël a donc cette mitzvah de raconter la sortie d'Égypte, mais il ne doit pas raconter la sortie d'Égypte simplement, il doit la vivre en réalité. On dit Chayav Adam, lirot et atzmo keilu hu yatsa mi Mitzrayim. C'est-à-dire l'homme doit considérer comme s'il était lui-même sorti d'Égypte. Alors il y a un mot ici important, c'est keilu. Comme si. Mais d'un autre côté, d'une certaine manière, il faudrait plus que ça. Pas que considérer que c'est comme si, mais considérer qu'on est sorti d'Égypte. Ça veut dire qu'il faut faire un travail qui va nous permettre de penser, de comprendre qu'on sort d'Égypte tout en moins. Chaque année, disons, et peut-être même en permanence. La sortie d'Égypte, elle est caractérisée quand on regarde le récit. Voilà, la Haggadah de Pessah, c'est pas obligatoire, si vous voulez. Il y a le soir du Seder, il y a une mitzvah, Minatora, de Saper Bitsiat Mitzrayim. Il y a une mitzvah de manger des matzot et du maror. Et malheureusement, il y a une mitzvah, mais on ne la pratique pas, la mitzvah de Korban Pessah. Mais il n'y a pas une mitzvah de raconter selon un texte obligatoire. Ce n'est pas comme Megillat Esther. En théorie, on pourrait écrire une autre Haggadah de Pessah. Il y aurait les éléments fondamentaux, mais on ne sait pas qui est l'auteur de la Haggadah de Pessah. Mais bon, c'est presque la même partout, dans le monde ashkénaze, dans le monde sfarade, dans le monde yéménite, etc. À quelques petites variantes près, c'est le même noussach. C'est un noussach un peu spécial, dans la mesure où on ne voit pas très bien le fil conducteur dans la Haggadah. Il y a quand même des choses un peu éparses, comme ça, on ne sait pas très bien. C'est une espèce de puzzle, bien qu'on ne sache pas obligatoirement comment est-ce que les éléments s'agencent les uns dans les autres ou avec les autres. Mais, néanmoins, il y a l'air d'y avoir une constante qui est qu'il y a deux récits. On l'a déjà dit toutes les années, mais bon, je suis bien obligé de redire un peu la même chose. Il y a deux récits. Il y a un récit qui concerne la sortie de l'esclavage. Pessah, on l'entend beaucoup comme Yetziat Mitzrayim, comme Hachem dans Aseret Hadibrot. Hachem dit très clairement, je suis Hachem, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte, c'est-à-dire de l'esclavage. Mais il se trouve que, comme vous savez bien, il y a un deuxième récit dans la Torah, dans la Haggadah. Un autre récit dont Hachem ne parle pas quand il se présente à Aseret Hadibrot. C'est un récit de la sortie de l'idolâtrie. N'est-ce pas, les Bnei Israël en Égypte ils étaient idolâtres. Et on dit qu'on est sorti de l'idolâtrie. Et on fait un récit concernant l'idolâtrie qui commence justement, si vous voulez, à la première naissance du clan Israël. Le récit qui concerne la sortie d'Égypte, qui concerne la sortie de l'esclavage, lui ne commence qu'à la naissance du clan, la deuxième naissance du clan d'Israël, celle du temps de Moshe Rabbeinu. Mais le clan d'Israël, il était né déjà au temps d'Avraham Avinu. Mais au temps d'Avraham Avinu, on n'est pas sorti de l'esclavage, on est sorti de l'idolâtrie. Alors il est très vraisemblable, si vous voulez, que l'esclavage, d'une certaine manière, est une forme d'idolâtrie, dans la mesure où l'esclavage, c'est aussi d'avoir un maître, et dans l'idolâtrie, on a aussi un ou des maîtres. Et de ce point de vue-là, on peut les considérer comme étant proches l'un de l'autre. Le récit sur la sortie de l'idolâtrie, celui-là, il commence à Abraham. Et curieusement, il nous parle même de Terach. Qu'est-ce que Terach a à voir avec la sortie d'Égypte? Il n'a rien à voir avec la sortie d'Égypte. Mais, si on considère, comme je l'ai dit, que Yetziat Mitzrayim, c'est un processus. Encore pas dit clairement un processus de quoi. C'est un processus qui va donner lieu à deux naissances. La naissance du clan Israël sous Abraham et la naissance du clan Israël sous Moshe Rabbeinu. Mais ce n'est pas tout. Ça va donner naissance au clan d'Israël, qui justement est donc caractérisé par ces deux naissances. Alors, c'est une naissance qui n'a pas marché, pas bien marché. La naissance du clan d'Israël sortie de l'idolâtrie par Abraham Avinu, ça a donné Abraham, Israël, Yaakov, Yosef, les Shvatim, disons. Et puis après, les Bnei Israël, quand ils sont tombés dans l'esclavage égyptien, ben ils sont tombés aussi dans l'idolâtrie. Alors, ça veut dire que, oui, parce que quand on dit que les Bnei Israël sont tombés dans l'idolâtrie, il faudra faire fabriquer une enclave, bon, une partie du clan d'Israël qui, elle, n'a pas été touchée par l'idolâtrie, c'est la famille de Lévi. Et ça, on verra après. Pour l'instant, en gros, le clan d'Israël, globalement, il a été touché par l'idolâtrie. Il a été touché par l'idolâtrie parce qu'au fond, avec Abraham Avinu, lui, Abraham Avinu, on nous dit que lui, il a fait toutes les mitzvot, même si il n'en avait pas reçu l'ordre. Il a compris par lui-même la nécessité de pratiquer les mitzvot. Mais ce qu'on nous dit sur les Bnei Israël en Égypte, c'est que les Bnei Israël, en fait, n'avaient qu'une seule mitzvah obligatoire. Parce qu'Abraham n'a reçu qu'une seule mitzvah obligatoire, c'est la Mila. Donc les Bnei Israël en Égypte faisaient la Mila. Et la Mila, à ce moment-là, c'était la seule chose qui, concrètement, comme mitzvah obligatoire, faisait la différence entre les Égyptiens et les Bnei Israël. Alors peut-être qu'il y avait cette histoire de Guy d'Hannaché, je ne sais pas, Hazal n'en parle pas tellement, mais ça devait, ce n'était pas une différence tellement visible, peut-être. Ils n'avaient qu'une seule mitzvah qui les distinguait. Et quand ils ont vu arriver l'esclavage, ils se sont imaginés, parce qu'il y a toujours des gens qui pensent comme ça, que on pourra éviter l'esclavage ou la gravité de l'esclavage, la dureté de l'esclavage, si on réduit la différence entre nous et les autres. Et donc, pour réduire la différence, ben, ils ont cessé de pratiquer la Mila. Ils ont cessé de faire la mitzvah de Mila. Mais ça a dû tout de suite, il y a un midrash qui dit, vous croyez que vous avez aboli la différence, si vous abolissez de votre côté la différence, elle doit avoir lieu, donc c'est les goyim qui vont la mettre, la différence. Alors ça dépend. Ça dépend si on considère que c'était seulement, effectivement, qu'après la Mila, ils ont retiré sur la membrane pour essayer de... Parce que dans la Mila, dans la version des Bnei Israël, il y a Mila ou Priya. C'est-à-dire, on doit couper et aussi il faut dégager le gland. Par exemple, les Arabes, ou Avraham Avinu, dans ce qu'il a reçu comme mitzvah, lui, il a fait les deux, mais dans la mitzvah d'Avraham Avinu, qui est la mitzvah que les Arabes pratiquent, ils font souvent la coupure. Il n'y a pas de mitzvah, ils n'ont pas de mitzvah de dégager le gland aussi. Donc c'est possible que on dit ça dans d'autres cas aussi, que certains ont voulu faire la mila, mais et même dégager un moment, puis ensuite, aussi rapidement que possible, retirer sur la membrane, enfin sur la peau, pour recouvrir le gland. Pour donc, là, on voyait pas, pratiquement pas la différence. Donc, ils ont voulu abolir la différence par la mila. Alors, du coup, Hachem a fait en sorte que la différence, elle soit marquée par les goïms, par les Égyptiens. Et du coup, vous avez ce fameux midrash qui dit que quand un Égyptien croisait un Ben Israël, il vomissait. Il était dégoûté par la seule vue des Ben Israël. Il vomissait. Et c'est nous qui disons ça. C'est le midrash. Par dégoût, il était dégoûté. Pardon, pardon? Voilà, visiblement, quand il sentait que c'était un juif, il le reconnaissait quand même et il vomissait.
L'artiste est par exemple. Pour nous, c'était un avertissement, mais pour eux, c'était pas résolu, c'est pour les raisons.
Non, c'est Hachem a mis la différence. Donc ça n'a pas marché, si vous voulez. Du coup, ils ont dans la suite de ça, ils ont pratiqué aussi l'idolâtrie, comme ils se sont assimilés en d'autres termes. Je vais faire une parenthèse. On y reviendra, mais. Vous savez que Chazal enseigne que, en vérité, le galout, l'exil, il a été donné pour que des guérims seuls viennent s'ajouter au clan d'Israël. Et pourquoi cela? Parce que, vous savez bien, il y a une théorie, une explication, qui dit que, à un moment donné dans la création, il y a eu ce qu'on appelle la brisure des vases. C'est-à-dire, grossièrement, on peut dire qu'il y avait des vases qui normalement devaient contenir la lumière, beaucoup d'énergie, si vous voulez, et ces vases n'ont pas tenu, ils ont éclaté. Et du coup, il y a eu des étincelles de cette lumière qui sont parties partout. Et elles ont atterri un peu chez toutes sortes de peuples. Et une des explications, c'est de dire que Mashiach reviendra, ou l'histoire sera terminée, si vous voulez, lorsque les Bnei Israël auront récupéré toutes les étincelles qui se trouvent un peu partout. Or, pour récupérer les étincelles, comment on fait? Alors, il faut que des gens qui sont capables d'aller chercher ces étincelles, c'est-à-dire, ces étincelles, elles sont dans les différents peuples, elles sont dans une gang, ça veut dire, elles sont incluses, ces étincelles, dans, si vous voulez, dans les théories idolâtres, etc. Dedans, il y a des étincelles de vérité. Comme on sait que le Sheker, il ne tient pas s'il n'y a pas d'étincelle de vérité. Donc, il y a des étincelles. Seulement, les Bnei Israël, même s'ils voulaient, ils ne peuvent pas aller les chercher. Les Bnei Israël, ils ne sont pas outillés pour aller là-bas. Si vous voulez, c'est, si eux, ils vont là-bas, ils vont complètement être détruits par, assimilés ou, etc. Ils ne peuvent pas supporter d'être confrontés avec justement cette gang, avec cette idolâtrie, ce sommet de l'idolâtrie, sans être influencés. Les seuls qui peuvent le faire, c'est sans être détruits, c'est les goïms. Les goïms, eux, ils peuvent aller les chercher. Donc, s'il y a des goïms qui vont se convertir, ils pourront, parce que eux, ils peuvent le faire sans être détruits, sans être abîmés par cela. Ils peuvent, eux, aller chercher des étincelles. Et ils vont les chercher dans le processus de Guillou. C'est comme ça que ils sortiront les étincelles, ils vont les amener dans le cas d'Israël. Et donc, de ce point de vue-là, on pourrait dire là, il y a une fonction positive du galout. C'est vrai, mais en même temps, dans le galout, il y a l'énorme risque de l'assimilation. Dans le galout, on a eu des galouillottes ou des moments dans des galouillottes où tout allait très très bien, où toutes les choses se passaient très très bien. Mais en même temps, il y a eu une trop grande assimilation. Si on prend l'âge d'or espagnol, on a eu des superstars dans les hajamim de l'époque, mais il y a eu une assimilation absolument terrible. Et quand les goyim, là-bas, en 1492, ont dit aux juifs, vous partez ou vous convertissez, il y a énormément de gens qui se sont convertis et parmi eux, beaucoup de rabbins. Quelqu'un m'a dit qu'en vérité, en tout et pour tout, il n'y a que deux rabbins qui ne se sont pas convertis. Un des deux, c'est Albo, mais je ne sais pas qui est le deuxième. Pardon? Non, à part Abbanel qui lui avait un statut à part. Abbanel, ils lui ont dit, si tu veux, tu peux rester, tu peux pratiquer le judaïsme, toi et ta famille et tout. Il était tellement nécessaire parce qu'il était ministre des Finances, mais il a dit, je m'en vais. Il est parti. Et donc, là, on a vu qu'il y a eu d'autres moments où les choses allaient très bien, mais quand ça va très bien, Vaishman Yeshurun Vaivat, ça veut dire quand Yeshurun, c'est un nom du clan d'Israël, quand il devient gras, c'est-à-dire quand ça va bien, Vaivat, il se révolte contre Hachem. On a perdu beaucoup, beaucoup de monde par assimilation, que ce soit plus récemment en Allemagne, etc. Il y a eu beaucoup, beaucoup de conversions. Il y a ceux qu'on connaît qui sont très célèbres, mais il y a eu beaucoup d'autres. Et donc, il y a un côté positif, à la limite quelque chose qu'on est obligé d'avoir, mais il y a un côté négatif qui est l'assimilation. Donc, ça coûte cher, en quelque sorte, au clan Israël, d'aller récupérer ces nitzotzot. Oui. Alors, il y a beaucoup de gens qui disent qu'on a été ces derniers temps, ou dans certains pays, ben ça dépend dans quel pays, où c'est, ils appellent ça sweet golus, c'est-à-dire un galut très agréable. Il y a des gens qui en disaient, c'est une expression qu'ont utilisé les Américains, en disant qu'ils ont un galut très bien.
Qui nous permet par exemple quand on dit de plus en plus j'ai l'impression dans le passé j'avais pas le sentiment qu'on pouvait exister en tant que vie aussi bien que par exemple moi j'ai l'impression que c'est ma vision de structure et de complexité des choses mais
Je sais pas, je connais pas les statistiques, je peux pas dire là-dessus. C'est sûr qu'aujourd'hui, par exemple, le taux d'assimilation aux États-Unis en particulier, il est gigantesque, il est plus de 50%.
ce que je veux dire, c'est que les groupes, ils nous laissent la fondation de
Oui,
l'éducation.
non, parce qu'il y a plus de, les goïms dans certains pays, ils n'y croient plus à eux, donc ils vont pas nous obliger à se convertir. Mais ils présentent un mode de vie dans lequel les juifs s'imaginent qu'ils peuvent s'imaginer, ils peuvent s'intégrer. Ça marche ou ça marche pas, mais en tout cas, ça aboutit à des désastres. Oui, c'est obligé. Mais, oui, mais ça dépend de l'ampleur.
Avec le temps, quoi, que ça se
Non, mais avec le temps, vous avez raison, il va y avoir l'assimilation. Le problème, c'est l'ampleur. Vous n'avez pas la même chose si vous avez 100 personnes qui disparaissent ou si vous en avez 100 000.
dans les 100 personnes, ça contient les 100 000 clients. Une assimilation peut être grosse.
Bon, ça, c'est votre théorie. Ouais.
Les conversions ne sont pas ça. C'est du bon souvent, les conversions, c'est de plus en plus de problèmes. Je sais pas. Mais dans la génération d'avant, il y avait des
Oui, ça dépend où. En Allemagne, ils se sont, jusqu'au moment où ils ont fait des problèmes, il y avait beaucoup d'antisémitisme, mais ils sont quand même Pas mal sont tous ceux qui sont devenus professeurs d'université s'étaient convertis parce qu'on ne pouvait pas faire autrement. Oui, il y a eu un moment où il y en avait très peu.
Et ça met combien de temps en Allemagne pour le trou, la famille trou, devient la très peu de trou?
Oui, il n'a pas fallu longtemps. Quoi, entre le Ramchal, il dit qu'il y avait beaucoup. Et Hirsch, où il y avait plus beaucoup de monde, c'est pas tellement long et bon, je sais pas, ça ce sont des statistiques, je peux pas, je sais pas. Donc, cette solution-là, non, parce que effectivement, non, parce qu'il y a aussi eu une telle amélioration de la condition des naissances, c'est que bon, avant il y avait autant d'enfants, mais la plupart mouraient. Donc il y a, ferme la parenthèse là-dessus. Donc on a donc deux récits. Et ces deux récits débouchent tous les deux sur la sortie d'Égypte, d'une certaine manière. Ce qui est aussi remarquable, c'est que dans le récit sur la sortie de l'idolâtrie, le récit commence par dire que les Juifs, au départ, ils étaient idolâtres, et puis ils s'en sont sortis, ils sont sortis, Abraham Avinu. C'est intéressant parce que quand Rambam décrit l'évolution de l'humanité, il va à contre-courant au sens de ce qui se dit couramment. Les goyim aussi disent toujours que l'humanité était initialement idolâtre, et puis que petit à petit ils sont arrivés à un monothéisme, je sais pas quoi. Mais Rambam dit pas du tout. Adam Harishon, il connaissait Hachem, il était proche d'Hachem, et les premières générations, ils étaient toujours encore proches d'Hachem, et même la cinquième génération de Enoch, où a commencé l'idolâtrie, ça n'a pas commencé par une véritable idolâtrie, ça a commencé par la volonté d'exprimer sa reconnaissance à Hachem. On ne pouvait pas l'exprimer parce que qu'est-ce qu'on peut faire pour Hachem? Donc on a décidé d'exprimer la. Ils ont décidé d'exprimer leur reconnaissance aux serviteurs d'Hachem. C'est-à-dire, ils vont exprimer leur reconnaissance au soleil en sachant pertinemment que le soleil est un serviteur d'Hachem. Il n'a aucune autonomie. Mais petit à petit, ça a glissé et on a attribué à tout ça une autonomie. Et on a fait, c'est tombé, on est tombé dans la véritable idolâtrie. Donc, ce qui se passe avec les Bnei Israël n'est pas sur le même modèle que ce qui se passe avec l'humanité. Il y a cette mitzvah de raconter la sortie d'Égypte, et on dit effectivement que plus on raconte la sortie d'Égypte, plus on mérite de louange. C'est-à-dire, c'est en racontant qu'on mérite des louanges. C'est pas que on mérite déjà par ailleurs, mais le fait de raconter, ça fabrique des louanges, en quelque sorte. On peut parler comme ça. Non, je voulais dire, pas que c'est différent. Je voulais dire que les Bnei Israël, ils commencent par l'idolâtrie et ils vont vers la Torah vers vers la coupure de la Torah. C'est celui qui reçoit la Torah, c'est comme il niait l'idolâtrie. L'humanité, elle commence par connaître Hachem, elle dérive vers l'idolâtrie, puis ensuite elle recommence éventuellement à se rapprocher d'Hachem. Mais elle a commencé par du positif, par connaître Hachem. Adam Arishon, il connaissait Hachem. Mais Avraham Avinu, il connaissait pas Hachem au départ. Avraham Avinu lui-même, il est idolâtre jusqu'au moment où il commence. Il est éduqué dans une famille idolâtre. Il faut savoir que les goïms, souvent, enfin les peuples, ils essayaient de revendiquer une naissance. Là, ils sont nés de la cuisse de Jupiter ou de je ne sais pas quoi. Nous, on est nés esclaves. Et pire encore, on est les descendants du couple le plus pourri du monde. Avec dit que, à l'époque avant la naissance d'Abraham Avinu, il y avait des malachim qui voulaient empêcher la neshama d'Abraham Avinu, qui était une très très grande neshama. Ils ne voulaient pas qu'elle descende dans le monde. Ils ne voulaient pas qu'elle s'incarne, qu'elle existe. Et donc, ils étaient à l'affût pour empêcher la neshama d'Abraham Avinu de descendre dans le monde. Finalement, ils ont dit, on peut faire mieux. Au lieu d'être tout le temps en train sur le qui-vive, ou savoir pas qu'elle descende, faisons-la descendre à un endroit où c'est sûr qu'elle ne remontera pas. Et donc, ils ont cherché le couple le plus pourri du monde. Ils ont trouvé, s'appelle Terach, elle s'appelle Amtelai. Et ils ont fait descendre la Neshama d'Abraham Avinu dans ce couple le plus pourri du monde, en se disant jamais cette Neshama ne pourra remonter. Elle est néanmoins remontée. Donc nous pouvons dire, nous sommes issus du couple le plus pourri du monde, et éventuellement d'un peuple d'idolâtres et d'esclaves. C'est-à-dire qu'en fait, l'inné, si vous préférez, n'est pas vraiment fondamental. On est dans l'acquis. Les Israéliens ont dû acquérir un statut de respectable. Puis ensuite, d'abord vers l'idolâtrie, puis ensuite elle remonte. On commence par l'idolâtrie et l'esclavage, et on va vers Hachem. Mais on a commencé dans le négatif alors que l'humanité a commencé dans le positif.
Et on est quand même dans le commandement de cette vie. Pourquoi est-ce qu'on défend l'histoire de l'humanité en positionnant aussi dans la continuité de la religion?
Adam, mais nous aussi, on est descendants d'Adam Harishon, on est aussi descendants de Noach, enfin de Cheth et de Noach. Donc je disais, plus on raconte la sortie d'Égypte, mieux ça vaut. Mais en vérité, on doit raconter, on doit s'en souvenir, en tout cas tous les jours de ta vie, Kol Yemei Chayecha. C'est-à-dire que de la même manière que c'était, on a dit, on est digne de louange parce qu'on raconte la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte, on la raconte parce qu'elle se on raconte quelque chose qui est toujours en train de se faire. Et le récit est parti de ce qui est en train de se faire. La sortie d'Égypte, comme je vous ai dit, c'est un processus, donc il est toujours à l'œuvre. En fait, il est même à l'œuvre depuis avant l'Égypte, mais il est toujours encore en train de se faire. Et il dévoile des dimensions qu'on ne connaissait pas du tout au fur et à mesure que le temps passe. Les Chachamim, par exemple, ils ont dit, dans la Torah, on nous parle de 10 plaies. Mais vous vous souvenez, dans la Haggadah, les Chachamim disent, mais il n'y avait pas 10 plaies, il y en avait 50. Personne ne donne un seul exemple de ces 50 plaies. Mais dans les 10, d'une certaine manière, il y en avait 50, si vous préférez, il y en a 40 d'autres, 40 autres, mais il y en avait qui étaient comme en potentiel dans les 10. Les 10 sont une espèce de tête de pont qui vont donner lieu à une flopée d'autres plaies, makot, en fait. En quoi c'est intéressant? Qu'est-ce qu'ils nous disent, les Chachamim? C'est-à-dire que c'est quelque chose qui a été dévoilé aux Chachamim, mais qui n'est pas écrit dans la Torah Shebichtav. Donc, on peut imaginer que ce dévoilement des 50, il a eu lieu entre Moshe Rabbeinu, si vous voulez, et Rabbi Akiva. Dans cet entretemps-là, lentement, il s'est fait jour. Je ne sais pas quand exactement quels Chachamim ont dit qu'il y en avait 50. Enfin, on connaît les noms, mais c'est les Tanaïm, donc c'est l'époque de Rabbi Akiva. Il s'est fait jour, en fait, qu'il y en avait beaucoup plus. Donc, c'est important que le récit, il a fait passer des choses qui étaient potentiellement là. Et il les a actualisés. Voilà, ils ont dit, il y en avait 50. Les détails, si vous voulez, de cet esclavage dont on est libéré, les détails de cet esclavage et la forme du dévoilement, de la sortie de cet esclavage, ça se dévoile au fur et à mesure qu'on en parle. Au fur et à mesure pour chacun et au fur et à mesure pour le clan d'Israël, au fur et à mesure du temps. Nous, on n'ajoute pas. C'est-à-dire, on n'ajoute pas, on ajoute. Hein. Il y a plein de Chachamim qui ont fait des Perushim sur la Haggadah dans lesquels ils ajoutent, dont les particuliers, tous ceux qui font des grands Farshim, tous les Chassidim par exemple, ils font des récits qui ajoutent, qui développent en fait. On continue. Oui, de décrire la sortie d'Égypte. Ça veut dire que ça veut dire que il y avait eu un noyau, si vous voulez, qui a eu lieu effectivement en Égypte il y a un millier d'années. Et puis ce noyau-là, il grandit au fur et à mesure qu'on en parle. Comme tout processus qui se respecte, il se développe. Ce galout, cette sortie du galout d'Égypte, d'une certaine manière, est aussi la racine de d'autres sorties d'exil, parce que la racine des quatre exils standards, elle est dans les erreurs ou dans les fautes qui ont été commises par les Bnei Israël au cours du temps. Et les Galouyot sont venus pour réparer, a priori. Chacun répare une des grandes transgressions. L'exil dans lequel nous sommes, le quatrième, eh bien, on sait que, comme disent Chazal, cet exil, qui est l'exil de Rome, quoi, parce qu'il a commencé avec les Romains, mais il continue aujourd'hui, et il est un exil qui vient de la haine gratuite et de la médisance. Certains disent que ce galoute-là est une réponse au silence de l'enfant chez Noyoder Lichol. Celui qui ne peut pas poser de questions, il ne sait pas poser de questions, parce que justement la haine gratuite, elle fait que on ne peut pas poser de questions puisque c'est gratuit. Tu ne peux pas chercher la cause des choses, c'est gratuit. Donc tu ne peux pas poser les questions intéressantes. On a vu déjà que Akadosh Baruch Hu a dit à mon cher Rabbeinu, lui a dit au moment où il a annoncé les dernières makot, il lui a dit, bon, j'ai encore quelques signes à manifester encore en Égypte. Et d'ailleurs, tout ce que je le fais afin que tu racontes à ton fils et ton petit-fils tout ce que j'ai fait aux Égyptiens, j'ai moqué d'eux. Et tous les otot, tous les signes, j'ai opéré contre eux. Alors certains mefarshim disent que est à otot, les otot, on entend l'autre signe, l'autre mot de l'autre sens du mot otot, qui est les lettres. Les lettres, l'alphabet, les lettres de l'alphabet. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que le monde a été créé comme on le sait, on l'avait dit sur Bessalel, que le monde a été créé avec des lettres. Yada Bessalel et Saref Otiot Shebaen Nivra Olam. Bessalel savait mettre côte à côte les lettres avec lesquelles le monde a été créé. Donc le monde a été créé avec les 22 lettres de l'alphabet. Ces lettres de l'alphabet, puisque c'est avec ça que le monde a été créé, donc les lettres sont dans toute chose qui a été créée, elles sont là, en soubassement, en support de tout ce qui a été créé. Ces lettres-là, pas qu'elles sont, c'est avec elles qu'on a créé, donc tout a été créé, et donc elles sont là, et Hachem a dit, je vais manifester mes otot, ça veut dire, je vais faire sortir les otot, et sortir les lettres, parce qu'il y a des lettres qui sont cachées. Elles sont cachées durant l'esclavage, durant Galout, les lettres sont cachées. Elles sont aussi cachées parce que le Galout, dit Chazal, c'est ce fameux galout de la parole, l'exil de la parole. Les paroles, elles sont faites avec des lettres, des mots, donc des lettres. Il y a exil de la parole. Ça veut dire que les lettres ne sont pas accessibles, elles sont cachées. Il y a certaines qui doivent venir au jour. Et Hachem dit, voilà, ces lettres-là, je les ai manifestées en Égypte. Et donc, les Bnei Israël, puisque le processus est continu, les Bnei Israël doivent, par le récit de la sortie d'Égypte, ce qu'ils font, c'est que ils font émerger ces lettres qui étaient cachées. Les lettres qui émergent à la suite de la sortie d'Égypte, vous savez bien ce que ça donne. Ça donne la Torah chez Bichtav et la Torah chez Baal Peh. Il se trouve que la sortie d'Égypte, comme beaucoup de choses, s'est déroulée en deux temps. Il y a un premier temps où on est sorti du pays d'Égypte, et un deuxième temps qui est la déchirure de la mer des gens, Yam Souf. La sortie d'Égypte, hein. Le fait de sortir d'Égypte, de l'Égypte elle-même, il y a une mitzvah de raconter la sortie d'Égypte. Il n'y a pas de mitzvah de raconter comme tel Yat Yam Souf, le passage de la mer. C'est un élément dans la sortie d'Égypte. Mais ce qu'on doit raconter avec sa bouche, raconter, c'est obligatoirement avec la bouche, c'est les lettres écrites, celles qui sont, il faut les dire. Donc ça correspond à la Torah chez Birkav. De quoi? On raconte la sortie d'Égypte, non? Non, là.
La mer s'est ouverte.
À la mer, pour l'instant, on va en parler de la mer. Pour l'instant, je vous parle de la sortie d'Égypte elle-même. Ça correspond à la Torah chez Bichtav. La déchirure de la mer, elle va préparer la Torah chez Baal Peh. Alors, qu'est-ce qu'elle a de spécial du point de vue de la parole, la sortie de la déchirure de la mer? C'est qu'elle se termine par un chant. Bon, elle se termine par, si vous voulez, le niveau de la parole le plus élevé qui soit. Dans un chant, vous avez les mots, vous avez leur sens, vous avez le sens des phrases, et puis vous avez en plus de tout, vous avez la musique, le chant, donc la musique qui vient, et donc c'est la forme la plus riche de paroles. C'est ça la Torah chez Baal Peh. La Torah chez Baal Peh, elle, d'une certaine manière, elle est représentée, on fait sortir ici les lettres qui vont donner la Torah chez Baal Peh. Ça veut dire que tu as raconté à ton fils, quelque part, ça devient très concret. Parce que voilà, on l'a chanté. Alors, en fait, si on parle de ce qu'on a sorti de la sortie d'Égypte et de Yat Yam Souf, alors ça porte un nom, ça s'appelle le butin. Or, le butin, comme vous savez, c'est ce qui a été promis à Avraham Avinu dans le Brit Ben Abtarim. Hachem a dit à Avraham Avinu, il lui a annoncé que ses descendants seraient esclaves, etc. Il a dit, Vegam et Agoy, Le peuple qui les a asservis donne un offrir, je le jugerai. Et les Bnei Israël, ils sortiront au Birkouch Gadol. Ils vont sortir avec un grand butin. Souvent, les gens disent que le butin, bah, c'est l'or et l'argent que les Kélim en or et en argent que ils ont emprunté aux Égyptiens qu'ils n'ont pas rendu. C'est le butin d'Eretz Israël, de la sortie d'Égypte, de la sortie d'Égypte elle-même. Et puis il y a un deuxième butin, qui est le butin que les Bnei Israël ont ramassé au passage de la mer. Parce que les Égyptiens qui les ont poursuivis, comme c'était l'habitude, quand ils sont partis en guerre, ils partaient avec leurs richesses. Ils avaient des carrosses et des chars qui étaient somptueux. C'était la garde personnelle de Paro, là, qui a fait la guerre. Et tout ça a été récupéré par les Bnei Israël. Et on dit que le butin qu'ils ont ramassé à la mer est bien supérieur au butin de ce qu'ils ont sorti d'Égypte elle-même. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que la Torah chez Baal Peh, elle est beaucoup plus grande que la Torah chez Birkhtav. C'est pour ça que la parole de la Torah chez Baal Peh est une parole plus riche, plus foisonnante que la parole qui dit juste la libération elle-même. En fait, c'est ça le butin, mais de ce butin, il n'est rien dit dans la Torah chez Birkhtav. La Torah chez Birkhtav ne nous dit pas que les Bnei Israël ont ramassé un super butin au passage de la mer, parce que c'est dans la Torah chez Baal Peh. Cette Shira, les Bnei Israël l'ont dite, elle a un statut tout à fait à part, parce que le Midrash dit sur le Midrash, il commence avec le passouk de Michelet, Pia Patra Bechokhma. C'est-à-dire, elle ouvre sa bouche, il apportera avec sagesse. Et il y a un enseignement de chesed, de bonté, qui est sur sa langue. Ça, c'est le passouk avec lequel le midrash commence. Le midrash, souvent, il commence avec un passouk du Navi, ou bien là, en l'occurrence, il commence avec un passouk de Michelet. Vous savez, c'est le passouk cité ici, il est dans Eshet Chaim, c'est donc à la fin de Michelet. Et le Midrash dit que depuis le jour où Hachem a créé le monde, jusqu'à ce moment où les Bnei Israël ont passé la mer, personne n'a jamais chanté pour Hachem. La notion de chant pour Hachem, elle a été inventée par les Bnei Israël après Kriyat Yam Souf. La Torah, elle donne Shivim, le Shonot, elle donne beaucoup de voies, de chemins pour accéder à elle, à la Torah. Il y a Torah Tresed, il y a Eshdat, il y a Torah Temet, etc. Mais pour le chant lui-même, jusque-là, personne ne l'a utilisé parce que c'est autre chose, c'est un autre chemin. Les Chazal disent que c'est un chemin du Da'at. qui a été ouvert par le chant. Oui, parce que effectivement, c'est grâce à la Torah chez Baalpé, il va apprendre à parler autrement. Il va apprendre à parler autrement, à s'adresser à l'autre différemment. En Torah chez Birkav, les choses sont très, elles sont dites, mais elles sont dites de façon très, très, très courte, très succincte. Maintenant, dans le détail de ce qu'est-ce qui s'appelle la Shonara, qu'est-ce qui s'appelle pas la Shonara, qu'est-ce qui, etc. Tout ça, ce que c'est Sinatrinam, etc. Tout ça, on a besoin de la Torah chez Baalpé pour le savoir et pour le corriger. Donc, on va développer la Torah chez Baalpé. À la limite, on pourrait dire, il y a encore une partie de, par exemple, de la Torah pour lutter contre la Shonara et la Sinatrinam, qui n'est pas encore complète, parce que le Rav Ezraïm, il a écrit une partie, mais peut-être pas la totalité de ce qu'il voulait écrire sur la Shonara et Sinatrinam. Il a écrit beaucoup, mais est-ce que c'est qu'il a considéré qu'il avait terminé ou pas? Je ne sais pas. Bon. Donc, en tout cas, avant le Rav Ezraïm, c'est-à-dire il n'y a pas si longtemps, il manquait tout un pan de Torah chez Baalpé, d'organiser en halakhot à partir de la Torah chez Baalpé. Les psukim, le Rav Ezraïm, il n'a pas inventé les choses, il les a prises, mais c'était dispersé dans tous les midrashim, dans toute la Gemara, et il a ramassé tout ça, il a fait un corpus de halakha très important. Est-ce qu'il a tout dit? Il voulait dire, je ne sais pas. Pardon? Oui. Il travaille franchement bien sur la Sinatrinam. Il a écrit déjà plusieurs livres. Hachem, il a dévoilé des lettres, et hein, ces lettres, elles vont s'organiser, elles vont donner la Shira. La Shira, c'est encore c'est magnifique, mais c'est pas encore le meilleur état. L'état idéal, c'est un Shir Chadash. Bon, c'est un Shir au masculin et Chadash, à nouveau. Shira, c'est au féminin. Bah, c'est toujours le problème de que c'est quand c'est féminin, ça veut dire ça reçoit, mais ça n'agit pas aussi fortement qu'un chir masculin. Le chir masculin, il va transformer plus fortement que la chira. Non, les lettres sont des lettres. Les étincelles, c'est de la lumière. Là, elles ont éclaté. Les lettres elles-mêmes, Ils ont été cachés par la conduite des gens. C'est caché par la mauvaise conduite, par l'avodazara, par l'idolâtrie et par l'esclavage, c'est-à-dire la maltraitance des gens. Les nitzotzot, les étincelles de lumière, c'est un phénomène cosmique. C'est pas quelque chose qui dépend des hommes. Ça n'a pas, c'est pas une faute des hommes que les étincelles se sont répandues dans le monde. La brisure des vases, elle ne dépend pas des hommes. C'est un phénomène cosmique. Mais les hommes peuvent réparer. Oui, mais parce que Hachem a créé un monde imparfait et un homme imparfait pour que cet homme imparfait rende le monde parfait. Et rendant le monde parfait, il devient l'associé d'Hachem qui a créé un monde et il a laissé un petit bout, quelque sorte, pour que l'homme puisse devenir son associé à faire. Nous, on ne peut pas aller le chercher, c'est les guérims qui vont le chercher. Oui, ça. Oui, c'est ça. Pourquoi les guérims? Pourquoi ils vont devenir des guérims? Tu as raison, mais pourquoi? Non, mais les guérims, ils deviennent guérims parce qu'ils connaissent des juifs. Donc, pour connaître des juifs, il faut qu'il y avait des juifs dans leur voisinage. Donc, ça, c'est le galout, créer la proximité avec des gens qui peuvent devenir guérims, et eux peuvent aller chercher les Nitzotzot. Les Nitzotzot, non, ils vont chercher les Nitzotzot. Bon, ils deviennent les porteurs de Nitzotzot. Ils sont, comment, je ne sais pas comment ils les transportent. Est-ce que c'est devenu une partie d'eux-mêmes ou ça? Comment on produit le Shira? Non, nous, le récit, la Shira, c'est à nous d'étudier cette Shira et de raconter qu'il y a eu une Shira et de développer les éléments qui ont été dits dans la Shira, comme on le fait pour le récit de tout ce qu'Hachem a fait en Égypte.
Et la conséquence
La
et
Shira, c'est
la résultat dans lequel
les Bnei Israël, quand ils ont vécu ce passage, ils ont fait une expérience telle que ça a chanté.
la traversée de les événements précédents ont amené une transformation, ont changé leur état, c'est ça.
Oui, ils ont changé, ils se sont mis à. Ils étaient capables de chanter, ça veut dire ici en l'occurrence, exprimer quelque chose qu'ils avaient au fond d'eux-mêmes, mais qui était très enfoui, 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 et qui était complètement empêché de s'exprimer par l'esclavage, par l'idolâtrie, etc. C'était par. Pardon, les. Ils étaient inhibés complètement par le traitement qu'ils leur ont.
La différence entre le cri et le chant, le cri n'est pas formulé, il n'y a pas les
Non, mais le cri, c'est autre chose. Le cri, c'est parce que ça fait mal. Et le chant, en l'occurrence, le cri n'était même pas dirigé, n'était même pas un cri vers Hachem. Hachem l'a considéré comme un cri vers lui. Mais les Bnei Israël, ils ont seulement crié, ça fait mal. Ils n'ont pas crié, Hachem, aide-nous. C'était que ça. Il fallait. Mais c'est déjà un signe qu'on a un espoir, parce que Quand on crie, même si c'est complètement irrationnel, qu'on appelle à son secours, même si on n'a aucune idée de qui pourrait venir à mon secours, ni Bichlal, s'il est possible que qui que ce soit vienne à mon secours, je vais crier quand même. Parce que quand ça fait mal, on crie.
C'est pas
Non, non, c'est rien du tout. Au départ, c'est un cri. Seulement, Hachem a validé ce cri comme si ce cri s'adressait à lui, était une demande. Hachem, aide-nous. Mais ils n'en étaient même pas là. Israël était tellement enfoncé dans ce qu'ils étaient, dans leur exil, dans leur esclavage, et dans leur... Il n'y avait plus de souffle. Donc le cri, il n'allait pas plus loin que d'être simplement un son. Seulement Hachem a décidé qu'il allait valider la chose. C'est-à-dire qu'il a, mon Dieu, Hachem a décidé d'écouter. Quand il a écouté, il a donné du sens. Quand vous écoutez, vous pouvez aussi donner du sens aux paroles de quelqu'un, même si cette personne n'a pas dit tout ce que vous avez entendu de ce qu'elle a dit, parce que vous avez compris la situation, parce que vous connaissez les tenants, les aboutissants, etc.
c'est bien quelque chose en nous qui a crié, mais ce qui c'est quand on a peur de plus on crie, ça crie là aussi.
Oui, ça crie, mais ça crie pas vers. Tandis que la Shira, c'est une Shira vers. Shira l'Hachem. Je vais chanter pour Hachem. Alors, ce qui est très intéressant, c'est par exemple le fait que les femmes, elles ont des tambourins. Où elles ont les tambourins? Ils ont acheté des tambourins en chemin. Il y avait un stand de tambourins. Les ont pris les tambourins en Égypte. Ça veut dire qu'elles étaient sûres qu'il allait se passer quelque chose qui justifie qu'elles se baladent avec un tambourin. D'accord? Ça viendra bien. On va pouvoir chanter. Ça veut dire elles ont eu ce courage et cette émouna, cette confiance que voilà, si on sort, voilà, il va se passer quelque chose. Et voilà, elles ont été capables de penser cela à un moment où on ne pouvait pas penser. Non, c'est elles ont pris. Je ne sais pas si elle leur a dit de prendre des tambourins avec elles. On dit que c'est Myriam qui les a fait chanter. Peut-être qu'elle les a. Peut-être que le. Elle s'occupait déjà d'elle en. Elle s'occupait d'elle quand elles accouchaient, etc. Mais est-ce qu'elle s'occupait d'elle, est-ce qu'elle leur a suggéré de prendre des tambourins? Je connais pas de Midrash qui dise ça, mais le Midrash dit qu'elles l'ont fait d'elles-mêmes. Oui, bon. Non, c'est possible. Mais tu connais beaucoup de Beth Yaakov où on dit aux gens, munissez-vous d'un tambourin? Non, les gens qui ont les gens qui ont, on leur dit, prenez-le. On leur dit pas prenez. On dit pas aux gens, munissez-vous de tambourins.
Ça devait être le symbole de quelque chose de tambour, enfin, ça devait être un mouvement très spécial.
Bien entendu que la musique de l'époque, c'est pas une des musiques. La musique, c'est pas comment on dit, mais c'est plutôt, ça ressemble plus à la lecture de la Torah. Il n'y a pas de, il n'y a pas de chant, une amplitude de...
C'est extraordinaire, c'est pas mal. Ça me passe comme ça encore, mais c'est. À l'époque, maintenant, on chante. C'est pas mal, compagnie, mais. C'est mon adorable, cette
Mais
émouvance.
personne n'a jamais chanté. Donc, ça veut dire, non seulement elles ont pensé qu'elle pourrait éventuellement avoir besoin d'un tambourin, mais personne jusque-là n'avait jamais chanté. Bon, dans le Midrash, c'est pas marqué comme ça. Oui, peut-être, mais ce Midrash, bon, les Midrashim, on peut pas. Le Midrash qui dit, oui, peut-être elle avait une harpe, mais elle chantait pas. Hazal dit, personne n'a chanté avant la Shira.
Voilà. Et on va sortir et on va devoir après il y aura beaucoup de choses.
Voilà, ils ont.
Et on va
Non,
faire.
à la vérité, ce n'est pas elles qui ont inventé le chant. Parce que Moshe et les hommes, ils ont chanté avant elles. Avant elles.
Et alors?
Mais elles, elles ont chanté avec la musique, ce que les hommes n'avaient pas, d'une part. Et elles ont chanté un petit peu différemment. Parce que les hommes, ils ont chanté. On va chanter. Et elle leur a dit, chantons. Bon. C'est-à-dire que Myriam, elle leur a dit, on chante maintenant. On chante. Ils disent, on va pouvoir chanter. Bon. Ils ont chanté, ils ont dit qu'ils vont pouvoir chanter. Mais les femmes, elles ont chanté. Directement.
Raph, s'il vous plaît, le fait que la Shira est au féminin, c'est-à-dire qu'elle reçoit, je ne comprends pas bien, elle s'adresse à Hachem, cette Shira. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut...
La Shira, elle n'est pas au féminin parce qu'on s'adresse au féminin. Il y a deux sortes de chants. Il y a un chant féminin, un chant masculin. Le chant féminin, il a des caractéristiques féminines. C'est-à-dire, c'est un chant plutôt de réception, quoi, de j'ai reçu et je chante. Le chant masculin, il chante et il donne comme exactement comme la. Comme la différence entre le mâle et
Bien
le
sûr.
masculin et
Donc
le féminin.
là, il s'agit de la Shira. Donc la Shira, elle est censée.
C'est pas. C'est le Shira des hommes aussi. Les hommes
Ah.
aussi, ils ont fait ça. La Shira des hommes, elle s'appelle aussi Shira.
Oui, c'est ça. Donc tout le monde reçoit, en fait.
C'est le mode, c'est le genre de chant, si vous voulez. Comme si on
Donc.
disait. Un chant en la mineur et l'autre un chant en fa dièse. Oui.
Oui, mais ça veut dire que c'est un chant de reconnaissance, c'est-à-dire un chant de...
Le chant de toute manière, c'est le même chant, sauf peut-être les temps qui sont utilisés dans le chant, les temps au sens de la grammaire, les temps sont pas exactement les mêmes, les temps sont toujours plus emprunts, si on veut, d'une émouna concrète chez les femmes que chez les hommes. Et les femmes, ça correspond au tambourin.
D'accord. Mais c'est donc un chant de remerciement, c'est ça?
Oui, bien sûr.
D'accord. Merci.
Voilà, on s'arrêtait là.
C'était la dernière question sur la méthode fiscale. Je pense que la nouvelle mission est de vivre avec la vie. Je ne suis pas du parfait qui fait des erreurs. Je pense que cette femme est la seule femme qui a fait la vie. Si la vision est de vivre, je ne sais pas du parfait qui a fait la vie. Je vais d'abord vous dire que c'est bien tout pour la vie. Il faut que vous soyez en train de vous rendre compte de la vie. Je pense que vous pensez à toutes les gens qui ont fait la vie. Il y a plein de gens qui ont fait la vie. Oui.
Bonsoir à toutes.
Bonsoir,
Bonsoir.
Marty.
Merci beaucoup.
Bonsoir.
Bonsoir,
Bonsoir.
Shavuot
Attends.
Enfin, par rapport à ce qu'on écrit, ce qu'on entend aujourd'hui, au Cameroun, c'est rien du tout.